France, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Au cours des dernières décennies, les stratégies mondiales de santé ont ciblé de façon prioritaire sur le continent africain les infections transmissibles, sida, hépatite, tuberculose ou encore paludisme. Et pourtant, d'autres maladies sont aujourd'hui à l'origine de plus du tiers des décès en Afrique subsaharienne. Ces pathologies sont les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, des maladies non transmissibles, les MNT. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, le tribut de ces maladies devrait considérablement augmenter dans les prochaines années. Et avec lui, le fardeau de ces maladies, coûts financiers comme impact en termes de développement. Alors, parmi ces maladies dont la charge pénalise chaque année davantage l'Afrique, il y a le diabète, un dérèglement du taux de sucre dans le sang qui se déclare de façon précoce, à l'âge adulte, lors de la grossesse ou au crépuscule de la vie. Pathologie héréditaire ou provoquée par des habitudes de vie, cette maladie chronique touche aujourd'hui 425 millions de personnes dans le monde et il est en pleine expansion dans les pays les plus pauvres. La lutte contre le diabète en Afrique, elle est au centre de la Conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale, organisée ces 19 et 20 décembre à Grenoble, la ville de l'Isère, où se sont donné rendez-vous acteurs de santé, responsables publics, universitaires et patients. Et Priorité Santé est à Grenoble pour suivre cet événement. Ce sont donc deux émissions que nous avons choisi de délocaliser ici à Grenoble à l'occasion de cette conférence internationale. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'abord d'aborder la problématique de la prise en charge du diabète sur le continent africain. Autour de cette table, trois invités. Docteur Karine de Beaufort, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes pédiatre, endocrinologue à l'hôpital du Luxembourg. Également avec nous le professeur Nabi Baldé, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes endocrinologue à l'hôpital Donkat de Conakry en Guinée. Et puis avec nous, Ali Soumounterra, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pharmacien au Mali et patient diabétique de type 2.
RFI.
Alors, au cours de cette conférence, une large place est donnée aux patients comme aux actions de terrain pour justement aborder de façon concrète cette pathologie chronique. Le diabète, que beaucoup de gens connaissent de près ou de loin dans leur entourage, dans la famille, sans pour autant comprendre avec précision la nature de cette maladie, ni forcément saisir sa gravité potentielle. Et puis, bien sûr, la variété des complications qu'elle peut impliquer, ce qu'elle impose, par exemple, au quotidien pour le patient. Docteur Karine de Beaufort, vous êtes spécialiste du diabète de l'enfant. Justement, vous êtes à la tête de la Société internationale du diabète chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Diabète pédiatrique, c'est ce que l'on appelle le plus souvent un diabète de type 1.
Tout à fait. Je pense que c'est extrêmement important de différencier parce que le diabète de type 1, c'est mortel quand on n'a pas de traitement. Et le traitement consiste en insuline, ça veut dire des injections multiples fois par jour. Probablement, c'est une maladie qui est fréquemment confondue, surtout dans les pays africains où on voit énormément d'enfants qui puissent entrer à l'hôpital avec une déshydratation. Et si on ne fait pas une glycémie, un simple contrôle de sucre dans le sang, quand un enfant est vu par un médecin et quand un enfant vomit ou un enfant vient avec une déshydratation, on risque de passer à côté de la maladie et ça veut dire que le lendemain, l'enfant serait décédé, classé comme une déshydratation sévère, mais pas un diabète. Quand on aurait fait la glycémie, on aurait pu voir que c'est un diabète de type 1 qui n'a rien à voir, tant qu'on sache pour le moment, avec la nourriture dont on ne connaît pas la cause. On sait que c'est en voie d'augmentation. On sait que ça ne représente pas le même chiffre que le diabète de type 2, mais c'est une maladie qui est mortelle quand on ne le traite pas. Et si on le découvre et on l'identifie, on peut le traiter.
Professeur Nabi Baldé, on dit qu'il y a très peu de diabète de type 1 en Afrique, justement avec ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il n'est pas dépisté ?
Malheureusement, le diabète en général et les maladies non transmissibles de manière générale donc posent un problème d'accès d'abord au diagnostic. La majorité de ces enfants meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au diagnostic. Avec des moyens très simples, docteur De Beaufort parlait de contrôle sanguin, on peut aussi poser le diagnostic du diabète de l'enfant avec juste une bandelette urinaire. On a pu montrer dans plusieurs pays, dont la Guinée, le Mali et quelques autres, qu'il y avait bel et bien beaucoup plus d'enfants diabétiques qu'on ne l'imaginait. En Guinée, par exemple, nous sommes passés de 44 enfants à plus de 600 enfants maintenant.
Ça veut dire simplement que ces enfants ont survécu.
Ces enfants ont survécu parce qu'ils ont eu la chance de rencontrer un professionnel de santé qui avait été formé sur le diabète, qui savait reconnaître les signes de la maladie et mettre en route le traitement indispensable qu'est l'insuline.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ces enfants qui souffrent d'un diabète de type 1 ne sont pas dépistés, ce n'est pas simplement un problème de moyens, c'est aussi un problème de formation des soignants.
C'est fondamentalement un problème de formation des soignants et c'est fondamentalement un problème d'organisation des soins pour dire qu'il s'agit d'une pathologie fréquente et qu'il faut la rechercher de manière systématique quand un enfant est malade et se présente dans une structure sanitaire. Parce que malheureusement, ça peut être confondu à beaucoup d'autres maladies, comme le signalait très justement le docteur De Beaufort.
Alors pour le diabète de type 2, professeur Nabi Baldé, avant on disait diabète de la maturité. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui?
Malheureusement, ce n'est pas tout à fait juste. Le diabète de type 2 en Afrique est observé à un âge beaucoup plus jeune en moyenne que dans les autres régions du monde et nous observons de plus en plus ce type de diabète, y compris chez des adolescents. Donc ça montre bien que l'épidémiologie, ce qu'on sait de cette maladie, se modifie. En moyenne, les patients qu'on prend en charge dans nos structures sanitaires sont âgés d'une trentaine d'années. Donc vous voyez que sachant qu'il faut une dizaine d'années de diabète mal suivi ou mal contrôlé pour développer des complications, ce sont des patients qui, à l'âge de la maturité, à la quarantaine, cinquantaine, ont toutes sortes de complications extrêmement coûteuses et compliquées à prendre en charge. Et d'ailleurs, nos États ne seraient pas capables, nos pays ne seraient pas capables de prendre en charge autant de patients avec autant de complications.
Alice Oumoutera, vous êtes diabétique de type 2 depuis une quinzaine d'années. Comment est-ce que vous avez pris connaissance justement de votre statut diabétique, de votre maladie?
Aussi paradoxal que cela puisse être, en tant que professionnel de santé, je vous l'affirme, c'est accidentellement ou par hasard que j'ai fait le dépistage. Parce qu'un jour, j'ai vu à l'hôpital, j'accompagnais un parent. Je me suis rendu compte qu'il y avait une campagne de dépistage. Donc une équipe s'était déplacée de Bamako pour venir à l'hôpital de Ségou où je réside. Et après qu'il y avait un dépistage, je me dis, tiens, écoute, je vais faire un tour. Et le lendemain, parce que je n'y croyais pas, et toutes les réactions qu'on dit, ça a été très difficile pour moi d'accepter ces résultats sur ce moment-là. Le lendemain, on me dit, va à Bamako si tu n'es pas sûr, parce que il faut aller confirmer. Le lendemain, j'ai pris le car pour aller faire le test et Bamako a confirmé. Donc voilà comment je me suis retrouvé de plein pied là-dedans.
Heureux hasard, mais mauvaise nouvelle, mais heureux hasard parce qu'il vaut mieux être dépisté le plus tôt possible.
Oui, heureux hasard et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que à partir de ce moment, j'ai commencé à faire attention.
Qu'est-ce que vous avez arrêté justement entre le moment où vous apprenez votre maladie aujourd'hui, quelles mauvaises habitudes vous avez mis de côté?
Les mauvaises habitudes, c'est les aliments gras, les boissons, surtout la nuit, les sucreries, le poulet avec les sorties avec les camarades et les grandes fiestas. Et vraiment, le régime n'était pas du tout ça.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le régime de toute votre famille qui a changé ou vous avez personnellement fait varier votre régime?
Pas forcément. Le régime parle de la famille. Mais je suis heureux de le dire. Aujourd'hui, je suis très accompagné parce que toute ma famille m'accompagne. Le régime n'a pas changé, mais on fait attention à ce qu'on donne à papa. Les enfants surtout qui sont là, les premiers à me dire « Attention papa, ça c'est pas bon ». Donc je bénéficie de cet accompagnement aujourd'hui, j'avoue que je suis très à l'aise.
Ils prennent soin de vous,
oui.
Mais est-ce qu'il faut néanmoins, Alice Oumoutera, prendre un traitement aujourd'hui pour contrôler ce diabète dans votre cas?
Alors dans mon cas, je dis oui parce que j'ai essayé de partir avec les premières mesures qui étaient hygiéno-diététiques.
Hygiène de vie,
oui.
Donc on mange
j'avoue
différemment
que,
et on fait du sport.
Par ma nature, j'aime bien manger et j'avoue que ça n'a pas marché au début. Et on a commencé avec une première molécule qui est le glucophage. Et entre-temps, au bout d'une année, je suis allé voir le médecin et on a vu que l'hémoglobine glycée n'était pas bon. Ça veut dire que, attention, il y a quelque chose. Et maintenant, quand on a échangé, il m'a proposé une bithérapie et aujourd'hui, c'est ce que je continue à suivre depuis quelques années, notamment la glucovance avec les deux molécules.
Donc avec deux médicaments deux
médicaments en un.
Pour contrôler
pour
votre
contrôler et avec la pratique de la sport, le sport de la marche sportive qui m'aide beaucoup et avec un régime un peu plus attentionné.
Professeur Nabi Baldé, vous êtes endocrinologue, également président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique. Avec vous, on aborde la question de la prévalence sur le continent. De quelles données dispose-t-on, données épidémiologiques justement sur la maladie en Afrique subsaharienne?
Malheureusement, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore des enquêtes suffisamment fiables pour mesurer l'ampleur du problème posé par le diabète. Les meilleures enquêtes qu'il y a, je dirais, les plus récentes sont les enquêtes tirées de l'outil STEPS de l'OMS, qui est un outil que l'OMS propose aux pays et qui permet de mesurer non seulement l'ampleur du diabète, mais aussi des affections qui sont associées au diabète comme l'hypertension, comme l'obésité et aussi les facteurs sous-jacents qui font que ces maladies la progressent, c'est-à-dire l'inactivité physique, la mauvaise alimentation, etc. Sur la base de ces enquêtes STEPS, on sait que en moyenne, dans nos pays, le diabète touche de l'ordre de 5% de la population. Il y a des pays où ça monte jusqu'à 10%. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est l'exemple de Monsieur Soumontera qui a témoigné tout à l'heure du fait que son diabète a été trouvé totalement par hasard. Malheureusement, c'est la situation la plus courante. La majorité des patients diabétiques, c'est 75% des patients diabétiques dans nos pays, ignorent qu'ils sont diabétiques. Lorsque vous êtes en milieu urbain, c'est en gros, dans le meilleur des cas, 50 à 60% des patients qui savent qu'ils sont diabétiques. Mais lorsque vous êtes en milieu rural, ça peut être jusqu'à 100% des patients qui ignorent qu'ils ont la pathologie. Et à juste titre, comme M. Soumontera le disait tout à l'heure, il faut bien se rendre compte que dans les stratégies actuelles de prise en charge de ces patients, les mesures entre guillemets hygiéno-diététiques ne suffisent plus à contrôler la maladie.
Il faut
accès aux médicaments et cela pose également un problème. Et il faut aussi éviter l'inertie thérapeutique qu'il a bien expliqué. Il a passé un an avant d'être équilibré. Un an, il était sous un traitement sans atteindre les objectifs. Il a fallu un an pour qu'il atteigne les objectifs, que son diabète soit suffisamment bien contrôlé pour le mettre à l'abri des complications. Ce que disent les sociétés savantes, c'est 3 mois.
Pour ces ajustements.
Oui.
Docteur Karine de Beaufort, on l'a compris, hein, il faut diagnostiquer. Beaucoup de gens ignorent justement leur statut. Les complications, certains vont consulter. Quand il y a des consultations, quelles sont-elles ces complications du diabète?
Là, il faut naturellement de nouveau différencier entre le type 1 et type 2. Si un enfant avec un type 1 n'est pas diagnostiqué, ça veut dire qu'il va, c'est une question vitale. S'il est dépisté et traité de façon adéquate, il peut vivre une vie comme tout le monde. Et s'il a un traitement qui est limité à cause de ressources financières, il peut avoir accès à l'insuline par moment, mais pas en continu, à des contrôles, ou bien par urine, comme le professeur Baldé l'a très bien dit, ou bien par des contrôles sanguins. Ça veut dire qu'on a des risques énormes de complications. Pour un enfant de développement, il va garder une toute petite taille, des problèmes de règles pour les filles.
Au moment de la puberté, c'est un moment critique.
C'est certainement un moment critique et où on a en effet des nains à cause du fait qu'ils ont un diabète insuffisamment contrôlé, des problèmes cutanés, des problèmes des yeux, cécité, une des grandes complications, insuffisance rénale. Quand on a maintenant une adolescent avec un diabète de type 2 qui ne reçoit pas le traitement, là on a pu démontrer que la vitesse avec laquelle on voit les complications n'est pas comme chez la personne de 50 ans qui développe son diabète de type 2. Et là, ça serait dans les 10-15 ans. Mais chez l'ado, on sait que dans 4 ans, on peut voir la même rétinopathie, des pathologies cardiaques, des pathologies d'hypertension.
Donc les yeux touchés, maladies cardiovasculaires, les reins, c'est tout l'organisme hein, qui en pâtit, professeur Nabi Baldé, avec des maladies même spécifiques. On parle du pied diabétique, de quoi s'agit-il?
Alors le pied diabétique, c'est vraiment la synthèse de toutes les complications chroniques possibles du diabète. Vous avez à la fois une atteinte des gros vaisseaux sanguins, donc les vaisseaux qui amènent le sang au niveau du pied. Vous avez une atteinte des petits vaisseaux et vous avez une atteinte des nerfs qui fait l'insensibilité et ça fait que ces personnes qui ont perdu la sensibilité au niveau des pieds peuvent se blesser sans le savoir. Et une fois qu'elles sont blessées, elles vont continuer à marcher sur leur plaie, ce qui va évidemment retarder la cicatrisation de la plaie. Et le dernier élément des pieds diabétiques, c'est l'infection. Donc quand on a à la fois une atteinte des vaisseaux qui sont bouchés, des nerfs qui ne fonctionnent plus avec une insensibilité et une infection associée, ces trois composantes vont conduire à ce qu'on appelle le pied diabétique, qui est malheureusement extrêmement mortel. Pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure docteur de Beaufort, que le diabète de type 2 est une maladie aiguë et mortelle également chez l'adulte. Parce que malheureusement, beaucoup de patients sont découverts à l'occasion de complications, parfois de pieds diabétiques. Je l'observe encore, y compris au CHU de Conakry où j'exerce. C'est à l'occasion d'un pied diabétique, d'une plaie qui ne guérit pas, qu'on va découvrir que la personne est diabétique au moment où l'infection est devenue extrêmement sévère. Et on a pu montrer, par exemple, qu'une bonne partie de la mortalité de nos patients diabétiques de type 2 adultes survenait dans des contextes d'infection du pied qu'on n'arrivait plus à contrôler parce que le diabète a été découvert un peu trop tard.
Alors, je m'adresse à nouveau à vous, Alissou Muntera, en tant que patient. Est-ce que vous avez eu personnellement à souffrir de l'une de ces complications, on a compris, hein, parfois très grave, très spectaculaire, qu'on a évoquées à l'instant?
Oui, vous voyez, je porte des lunettes. C'est déjà une empreinte du diabète. Et malheureusement, dans ma famille, ça commence à venir aussi parce que j'ai des enfants qui sont en trouble de surpoids. Et vraiment, c'est des préoccupations majeures. Mais rapidement, je voulais aussi signaler une complication dont on ne parle pas beaucoup. Je comprends la délicatesse. C'est le problème érectile. Il ne faut pas se taire là-dessus. Quand tu vas voir le professionnel, accepte de t'ouvrir et il y a des solutions. Il y a des solutions.
Et quitte même quand on a ce type de problème, voilà. Envisager de faire des recherches pour voir s'il n'y a pas aussi un diabète, parce que ça peut être aussi une manifestation, un symptôme.
L'un dans l'autre. Donc c'est vraiment un élément important. On n'en parle pas beaucoup dans les rencontres, même dans la documentation. Quand je jette un coup d'œil sur les complications, cette partie, je ne la vois pas très souvent. Mais je pense que c'est une réalité où j'ai l'habitude de discuter avec des gens, avec l'accompagnement du médecin.
La santé sexuelle fait partie de la santé publique.
Ce qu'on appelle la dysfonction érectile dont parle M. Soumontera, c'est très fréquent. Quand, sur les chiffres que l'on a en Afrique, c'est un patient sur trois souffre de dysfonction érectile. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut que les patients franchissent le pas et acceptent d'en parler, mais il faut aussi que les professionnels tendent la perche, je dirais d'une certaine manière, parce que c'est effectivement quelque chose qui altère de manière importante la qualité de vie, alors qu'on a les moyens de régler le problème.
Tout à fait.
Vous vouliez réagir, docteur de Beaufort?
Tout à fait, parce que je pense que c'est aussi quelque chose, même en pédiatrie, aux médecines de l'adolescence, qui doit être abordé, parce qu'évidemment, pour les jeunes garçons, c'est quelque chose qui est très préoccupant, et il faut qu'on leur explique bien qu'il y a un traitement possible,
que c'est réversible.
Je voudrais, si vous permettez, rebondir aussi sur ce qu'a dit M. Soumontera à propos de ces enfants qui commencent à avoir de l'obésité. Tout à l'heure, vous aviez demandé... Est-ce qu'il se sent soutenu? Est-ce que
il faut aussi qu'il se sente concerné.
Il est soutenu par sa famille et ses enfants lui disent bien attention papa, tu es en train d'exagérer ici, ça ne te convient pas. Mais je crois qu'il y a une autre dimension. C'est tout l'environnement familial qui doit manger la même chose que M. Soumontera. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il laisse tout le reste de sa famille manger entre guillemets comme à l'habitude, il est probable que partageant la même génétique que ses enfants vont devenir diabétiques. Alors que si, profitant du fait qu'on lui a découvert le diabète, c'est toute la famille qui va manger sain, alors on protège les enfants. On ne doit pas, entre guillemets, punir les diabétiques et dire qu'ils doivent avoir, eux, une alimentation recommandée par les médecins et le reste de la famille fait comme d'habitude. C'est d'autant plus important pour les patients diabétiques. Là, on sort d'une colonie de vacances d'enfants diabétiques qu'on a organisée en Guinée. Premier jour, premier repas, c'était très intéressant parce que on avait du sucre à table pour, entre guillemets, les soignants, alors que les enfants diabétiques, eux, avaient les sucrètes. Et c'est tout l'environnement de l'enfant qui doit changer. C'est l'environnement social, en général, qu'on doit modifier.
Vous restez avec nous, hein, docteur Karine de Beaufort, professeur Nali Baldé, Alissou Muntera. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de la prise en charge du diabète sur le continent africain. Émission enregistrée à Grenoble à l'occasion de la conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à la prise en charge du diabète sur le continent africain. On retrouve nos invités présents à Grenoble à l'occasion de la conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale. La ville de l'Isère où se sont donné rendez-vous les 19 et 20 décembre acteurs de santé, responsables publics, universitaires et patients. Justement, avec nous, un patient, on peut le dire expert, Ali Soumounterra, vous dirigez l'ONG Wale Action Santé dans la région de Ségou, vous êtes pharmacien, acteur de santé aussi, docteur Karine de Beaufort, pédiatre endocrinologue à l'hôpital du Luxembourg, et le professeur Nabi Baldé, endocrinologue à l'hôpital Donka de Conakry en Guinée, également président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique. On l'a vu hein, tout à l'heure, la gravité, la diversité des complications liées à cette maladie et aussi à une prise en charge insuffisante. Docteur Karine de Beaufort, facteur aggravant, on l'a dit, mais c'est un élément essentiel, c'est le retard de diagnostic.
Tout à fait. Et sans retard, on peut faire survivre, et avec retard, certainement du diabète type 1. Comme dit auparavant, c'est extrêmement important de reconnaître les formes différentes du diabète et savoir aussi qu'est-ce qui contribue à la pathologie. Mais le type 1 non dépisté, ou bien manque d'accès à une maison sanitaire, ou bien manque de compétences des personnes qui voient beaucoup de maladies transmissibles et qui cliquent plus sur les maladies transmissibles que sur un diabète.
Professeur Nabi Baldé, justement, les graves complications, c'est souvent ce retard, déficit d'information, de prévention ou d'accès aux soins. Qu'est-ce qui manque en fait ? Être pas suffisamment sensibilisé ou n'être pas suffisamment traité?
Je pense qu'il manque en fait de tout. Il manque de tout. Il faut partir de la sensibilisation, c'est certain, et informer les patients, les communautés que le diabète, ça touche tout le monde. Ce n'est pas qu'une maladie de personnes âgées, ça touche les plus jeunes, on l'a vu, ça touche tous les âges, ça ne fait pas de discrimination.
On a encore dans l'esprit, hein, beaucoup pensent encore, le diabète, c'est une maladie des riches, m'excuse, des gros, et des gens qui vivent au nord, alors que c'est totalement faux.
Malheureusement, le plus grand nombre de diabétiques se recrutent maintenant dans les pays en voie de développement, et malheureusement dans les familles les moins riches, parce que ce sont les familles qui sont le plus exposées aux facteurs de risque, avec une alimentation inappropriée, pas de pratique d'exercice physique, une certaine image de l'obésité qui serait synonyme de bonne santé ou de réussite sociale. Et donc, tous ces facteurs réunis font que le diabète progresse beaucoup plus vite, malheureusement, dans les pays en voie de développement. Et je voudrais à ce titre signaler qu'il faut que nous, professionnels de santé, nous arrêtions de donner des messages disant qu'il faut avoir les symptômes du diabète avant de se faire dépister. Les symptômes du diabète arrivent de manière tardive quand la glycémie est déjà à des niveaux très élevés, qu'on risque le coma. Et ces symptômes du diabète peuvent n'apparaître qu'au bout de plusieurs années alors qu'on a développé les complications. Donc, première étape, la sensibilisation, c'est vrai, mais en donnant des messages comme quoi on doit dépister le diabète chez tout le monde et surtout quand on est malade, qu'on a un contact avec les structures de santé. Deuxième message qui fait qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a une faible priorité accordée au diabète en général, au diabète et aux maladies non transmissibles, aux maladies chroniques en général. Il y a une faible priorité parce que le personnel de santé ne sont pas formés, parce qu'il n'y a pas les ressources nécessaires, on ne dispose pas du minimum de matériel nécessaire pour qu'au niveau le plus périphérique du système de santé, quand quelqu'un est malade, on ait le réflexe de contrôler la glycémie pour déterminer si cette personne est diabétique ou pas.
Ce contrôle, c'est une bandelette, ça peut être un contrôle sanguin, ça peut être un contrôle d'urine. Est-ce que ça coûte cher à un centre de santé d'avoir justement à disposition ces bandelettes? Est-ce que la plupart des centres de santé ont en Afrique ces bandelettes? On le dit, hein, en Europe, il y en a partout. Ça se trouve dans n'importe quelle pharmacie, ça se trouve dans n'importe quel hôpital. Dès qu'un enfant va aux urgences, on lui fait un test d'urine, on lui fait un test de sang. Est-ce que c'est la même chose?
Malheureusement, la majorité des structures de santé ne disposent pas de cet équipement minimum, ce qui montre bien que ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Si nos États, si nos associations de patients, si la société civile, si la communauté de manière générale prenait davantage conscience de la fréquence de cette maladie et de l'impact absolument dévastateur qu'un retard de diagnostic pose, alors on aurait ces outils au niveau le plus périphérique du système. Et c'est ce qu'on a montré avec les enfants diabétiques en ayant accès à des choses extrêmement simples. Quand l'enfant est malade, on lui contrôle sa glycémie. Quand l'enfant est malade, on regarde dans les urines. On a pu montrer qu'on a sauvé des centaines et des centaines et des centaines d'enfants diabétiques qui autrement seraient déjà enterrés et n'apparaîtraient dans aucune statistique. C'est la même chose pour l'adulte. On doit absolument avoir le réflexe de contrôler les glycémies et c'est un matériel qui ne coûte presque rien.
Ali Soumounterra, on le disait tout à l'heure, un contrôle de routine par hasard vous a en quelque sorte sauvé. Après, quand vous avez été traité, c'est vous qui avez payé de votre poche. Qu'est-ce que c'est le budget pour un diabétique? Est-ce que c'est accessible?
Oui, comme le professeur l'a dit, ce n'est pas évident. Ça dépend du sujet. Moi, par exemple, je ne suis pas un bon exemple parce que quelqu'un qui est dans mon statut, un pharmacien,
vous avez de l'argent, cadre
supérieur,
c'est pas un problème.
Voilà. Mais je ne suis pas vraiment représentatif.
Tout à fait.
Descendez un peu dans la communauté, vous verrez que les bandelettes, par exemple, au Mali, ça coûte, les tests, ça se fait à 1000 francs, 1000 francs CFA. Mais les gens ont du mal à respecter cette mensualité ou cette périodicité d'aller faire le dépistage. Mieux, dans certaines structures où la politique n'est pas bien développée, c'est ceux qui ont les soignants qui ont l'initiative d'apporter le glucomètre, ils se font de l'argent. Un test en situation d'urgence à 2000 francs. Imaginez quelqu'un qui vient dans une situation d'urgence où on essaie de corriger la glycémie à travers une perfusion. Combien de fois il va faire le dépistage? Ça m'est arrivé avec un parent où on a fait en une seule nuit 4 ou 5 dépistages et à chaque fois il fallait payer 2000 francs. Donc il y a un véritable problème par rapport à l'accessibilité à ces dépistages-là. Mais je voulais rebondir sur la situation de l'alimentation parce que c'est important. Tous les problèmes, c'est comment maintenir cet équilibre-là. Et c'est un fardeau énorme. Moi, comme le professeur l'a dit, il faut effectivement ne pas mettre le patient. Certains n'aiment pas le mot patient à part. Mais j'ai vécu une propre expérience qui me permet aujourd'hui que je peux expliquer. Le plat commun, c'est le riz. Mais moi, j'ai vécu avec ma propre expérience, parce que j'ai un glucomètre à la maison, avec la quantité que je pouvais prendre ou bien qui me paraissait normale. J'ai essayé de faire un suivi pendant une semaine avec vraiment des prélèvements périodiques. J'ai fait le même exercice avec une autre céréale qui est le mil. Et j'avoue que j'ai vu la différence. J'ai vu que ce que j'atteignais avec le riz, le niveau de glycémie était plus élevé qu'avec le mil. Donc, du coup, avec la famille, j'ai décidé, à midi, vous mettez sur le mil. Et j'ai mon plat de mil, mais la sauce, elle est commune. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, expérimenté et je continue à
professeur
travailler
sur Nabil ça. Baldé, est-ce que c'est vrai pour tous les patients? Est-ce qu'un patient va réagir de la même façon aux différentes céréales ou est-ce que c'est propre aux aliments ou c'est propre aux patients?
Il y a les deux. Il y a les deux parce que effectivement, la vitesse d'absorption de l'aliment que vous avez dépend de votre état de santé, de la rapidité de votre digestion, etc. Et ça dépend aussi donc de l'aliment en tant que tel, mais également des aliments qui lui sont associés. Lorsque on a un repas complet, c'est-à-dire qui comporte diverses sortes d'aliments, on ne va pas entrer dans les détails, ça permet d'amortir un peu la montée de la glycémie qui va arriver après le repas. Et ce que je voulais vous suggérer, monsieur Soumounterra, c'est vraiment d'insister, si vous avez constaté que le mil, ça vous convient mieux, incitez votre famille à avoir plus de 1000 aussi. Ne limitez pas, entre guillemets, cette alimentation saine à vous seul. Faites-la, partagez-la avec votre famille. Trouvez un équilibre pour faire en sorte que vos enfants aient accès à cette alimentation plus approprié.
Ce qu'on comprend, docteur.
Personne ne se bouscule autour de mon assiette.
Voilà, mais il préfère le riz. Docteur Karine de Beaufort, ça veut dire que ce qui est bon pour le patient sera bon aussi pour son entourage.
C'est ça qui devrait être la situation, parce que il faut, pour l'enfant, à n'importe quel pays, de le discriminer et de dire parce que t'as ton diabète qui est déjà lourd, tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela, c'est, je pense, complètement fausse, parce que je pense que tout le monde va en bénéficier, comme j'espère que votre famille va le faire, d'une alimentation saine. Et ça peut, et en général, l'alimentation saine, bien équilibrée, avec un peu de tout, est bien pour tout le monde. Et c'est une question de routine. Et je pense qu'à ce moment-là, on fait du bien à la société.
C'est
professeur
Nabil
Baldé.
Et voilà. C'est en cela que je crois les politiques publiques aussi doivent intervenir, et des politiques multisectorielles. On doit rendre disponibles de manière plus facile les aliments qui aident à maintenir la santé.
Alors justement, professeur Nabil Baldé, cet accès à la nourriture, cet accès aussi aux soins, aux soignants, à l'information, c'est une question de lieu, hein, peut-être surtout encore en Afrique, avec les capitales qui sont bien dotées, et puis en dehors justement de ces grandes villes, des zones quasi désertiques, ou en tout cas où on ne trouve pas suffisamment non seulement de traitements, mais aussi d'informations.
Absolument. Absolument, et même ces capitales ne sont pas si bien couvertes que cela, parce que vous savez que nos capitales sont augmentent de manière extraordinairement rapide. Et si vous prenez l'exemple de la Guinée, nous n'avons qu'un seul service de diabétologie dans un seul hôpital d'Onka, pour une population de près de 3 millions d'habitants. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Nous avons maintenant un centre périurbain qui donne aussi de l'accès, mais de manière globale, il est certain que on ne pourra pas résoudre les problèmes du diabète avec le nombre de patients que nous devons détecter et soigner en se focalisant sur des services spécialisés. Il faudra intégrer la prise en charge, le dépistage et la prise en charge de ce diabète dans les structures sanitaires en général, voire même au niveau de la communauté. Il faudra faire en sorte d'avoir des relais communautaires qui vont sensibiliser à la maladie, au fait qu'elle peut exister sans aucun symptôme, et qui peuvent même, à qui on peut même donner ces fameux lecteurs de glycémie pour réaliser des glycémies. Parce que de toute façon, dans les familles, quand on a une personne diabétique, on va former la famille, on va sensibiliser la famille, et la famille va participer aux soins.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Karine de Beaufort, d'ailleurs, cet aspect communautaire, on y a eu recours pour des maladies transmissibles. Pourquoi ne pas y avoir recours pour les maladies non transmissibles? Il y a un réseau qui existe.
Tout à fait. Je pense que ça devrait être aussi une des buts à obtenir dans le futur très proche et dans l'aujourd'hui de préférence. Et je pense que surtout pour le diabète, en pédiatrie aussi, on n'a pas que des spécialistes. On travaille en multidisciplinariat, et je pense d'avoir des professionnels de santé, que ce soit des éducateurs, des infirmiers ou si on a des patients qui ont été formés après en tant qu'éducateurs, il faut avoir accès à l'information, et ça peut se faire par intermédiaire de beaucoup de personnes différentes.
Et ça peut aussi se faire par le biais des réseaux communautaires et associatifs. Alissou Muntera, votre ONG Wale Action Santé agit dans la région de Ségou, à votre région d'origine. C'est à 240 km à l'ouest de Bamako pour se situer. Alors, quel type d'action pour votre organisation pour le diabète, mais pas seulement?
Oui, c'est vrai, l'histoire de mon organisation, on a commencé dans les années 97-98, parce que justement, j'ai fait une thèse de doctorat sur le profil sérologique de l'infection à VIH. On était en 1991. Alors, qui parle de VIH en 1991, forcément, c'était une maladie pas possible. Donc, c'est avec ça que je suis allé à Ségou. Malgré l'officine, j'étais obligé de sortir pour informer les gens. Et quand on me voyait sillonner les rues, les établissements avec mon véhicule, ma télé, on me disait que celui-là, il était fou. Mais je n'étais pas fou. Ce que j'ai vécu pendant mes années de thèse, où j'étais dans un laboratoire public qui était le seul labo à faire le test du
VIH.
Oui, B80, disons, la confirmation à l'INRSP. Et ce que j'ai vécu, des scènes que j'ai vécues, j'ai dit, je peux pas rester. Donc, c'est ce travail de sensibilisation qui a commencé. Et face aux charges, il fallait carrément transformer en ONG et aller à la création d'ONG et pour élargir la base et pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que nous avons mené petit à petit, de fil à aiguille, on a été amené à travailler dans la prise en charge. Mais toute cette expérience de 99-2000 à maintenant, qu'on a développé, et c'est ce qu'on est en train de vouloir mettre à la disposition de la lutte contre le diabète. Donc il y a un besoin de sensibilisation. Et c'est vrai, dans la communauté, les personnes les mieux indiquées, c'est les malades, c'est les patients. Oui. Mais l'envie, qu'est-ce qui motive le patient à aller parler de ça dans la communauté? Il faut se questionner. Et nous trouvons que c'est lent.
Parce qu'il y a eu une prise de conscience, oui, pour les maladies infectieuses, et cette prise de conscience, vous ne la retrouvez pas, pour les maladies non transmissibles.
Voilà. Et donc, il faut aider à faire émerger. C'est vrai qu'il y a des associations qui sont là, mais si vous prenez, il n'y a pas de bonne assise, l'association dépend d'une ou deux personnes, et les actions ne sont pas concrètes. Je dis par exemple, nous, on a commencé il y a 3 ou 4 ans, mais cette année, on est arrivé quand même à initier, avec l'association locale, une marche le 14 novembre. Ce qui est une première, parce que l'association n'avait jamais pu faire ça. Et quand on a commencé, on a dit, bon, il faut travailler à la visibilité. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais pour nous, le fait qu'on ait pu aider à aller dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose. Et après, petit à petit, il y a des gens qui s'approchent, qui disent, ah, on ne savait pas qu'il y a une association. J'ai dit, bon, voilà, c'est ça qu'il faut essayer de développer. Donc, notre organisation, en son sein, nous avons la chance d'avoir une équipe médicale. Et non seulement nous faisons la prise en charge du VIH, mais du diabète aussi. Et on arrive vraiment à concilier. Surtout que cette nouvelle problématique de la comorbidité diabète-VIH, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Et avec Santé Diabète, nous travaillons là-dessus. Donc, toute cette expertise de sensibilisation, on est 2 ou 3 personnes à avoir le diabète au sein de l'organisation. Donc, voyez-vous, il y a une masse critique qui est là, qui a des vécus, des difficultés qu'il faut qu'on sorte. Donc, aider les associations, nous-mêmes être des porteurs de messages. On a initié des groupes, quelqu'un a parlé de ça ce matin, on a initié des groupes de parole, des groupes de 10 à 20 patients. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Des patients qui étaient sous 10 ans, ils étaient sous traitement, nous ont dit, c'est la première fois que j'entends ça à propos du diabète, après 10 ans de traitement.
C'est-à-dire que même les médecins, professeur Nabi Baldé, voilà, n'avaient pas été capables, je m'excuse de dire ça, oui, de donner cette information, cette connaissance que seuls les patients, les malades eux-mêmes avaient.
Il est certain que les patients sont très très bien placés pour parler à d'autres patients. Et on le sait très bien, les pères éducateurs, c'est quelque chose, c'est une expérience fantastique dans le VIH qui est effectivement transposée maintenant dans le cadre des maladies chroniques non transmissibles. Mmh. Et ça fait que, par exemple, au niveau des enfants diabétiques, nous avons également des pères éducateurs, nous avons des role models, comme tu les appelles, Karine. Et ça fait que ce sont des personnes qui peuvent transmettre leur expérience, leur confiance aux autres et faire en sorte d'apporter des messages qui vont redonner espoir, qui vont faire que des patients qui étaient dans leur coin se sentent moins isolés, moins victimes de stigmatisation, d'exclusion, s'expriment, prennent leur santé en main et avancent de manière à se préserver des complications et à porter des messages de prévention pour le reste de la communauté, ce qui est fondamental.
Alors, vous êtes endocrinologue personnellement, professeur Nabi Baldé. Endocrinologue, il y a les diabétologues, il y a les généralistes, il y a toute une série de soignants. Qui, aujourd'hui, est le plus à même de soigner un diabète? Est-ce que c'est finalement pas une santé totalement communautaire?
Absolument. Et de ce point de vue, je voudrais signaler qu'avec l'ampleur du diabète que l'on a dans nos communautés actuellement, avec 5%, 10% de la population qui est atteinte, il n'est pas question d'envisager de soigner ces personnes avec des spécialistes uniquement. Nous mettons l'accent sur les médecins généralistes, ils ne sont pas très nombreux, et surtout sur les paramédicaux. Nous avons mis en place un diplôme, avec l'appui de quelques universités amies, un diplôme pour renforcer les capacités des infirmières à la prise en charge de ce diabète-là. Les programmes diabète de l'enfant qui ont tant de succès en Afrique sont portés principalement par les infirmières. Et ce sont des personnes qui ont plus de temps que les médecins, plus de disponibilité que les médecins, qui ont les meilleurs mots pour parler aux patients. Évidemment, comme je vous le dis, in fine, le patient parlera mieux à un autre patient que l'infirmière. Et si on peut faire le pas supplémentaire pour agir dans la communauté, alors ça marchera encore davantage. Il faut partager le savoir, il faut partager les compétences. C'est quelque chose qu'il faut aborder chacun à sa place. Mais il est certain que les paramédicaux auront un impact bien plus important parce qu'ils sont plus nombreux et plus proches des patients que les médecins, voire les spécialistes.
Docteur Karine de Beaufort, vous vouliez réagir à ce sujet?
Je donne tout à fait raison. Dans le sens que je pense que ça devrait être des équipes à la longue, ça devrait être des équipes multidisciplinaires, où il y a toutes les compétences qui seront là, mais il faut démarrer et il faut maintenant essayer d'avoir et d'assurer un suivi partout,
dans toutes les régions, loin des hôpitaux, près des hôpitaux. Et là, on ne peut pas imposer des voyages de 10 heures ou plus à chaque patient. Il faut avoir des gens dans le terrain, sur le terrain, qui puissent assurer, même s'il y a un recours à des avis médicaux si nécessaire, mais il faut que ça se fait sur place. Parce que c'est une maladie qui intervient surtout le diabète de type 1, mais type 2, je pense autant, qui intervient dans tous les domaines de la vie.
Alors, il y a le problème de l'accès aux soignants, il y a aussi le problème de l'accès au traitement, professeur Nabil Baldé, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent carrément sans traitement. Il y a un problème réel d'approvisionnement dans certaines régions.
Absolument. Malheureusement, c'est une situation très courante dans notre région. Et si vous considérez l'insuline, qui est donc un médicament vital, il y a encore malheureusement beaucoup de nos pays qui n'ont où il y a des patients qui n'ont pas accès à l'insuline. Lorsque je vous parlais tout à l'heure des programmes d'enfants diabétiques qui marchent aussi bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a apporté un peu de formation pour reconnaître le diabète au niveau le plus périphérique du système, avec des bandelettes, avec des lecteurs de glycémie. On a apporté de l'insuline, moyennant quoi, dans tous les pays où cela a été fait, on a multiplié par plus de 10-15 le nombre d'enfants détectés et soignés, qui étaient certainement destinés à une mort avec des diagnostics de déshydratation, de paludisme sévère ou autre, et le diabète ne serait pas apparu. Nous devons continuer à travailler à apporter cette accessibilité-là. Le diabète, les maladies chroniques, dans notre région, c'est fondamentalement d'abord un problème d'accès aux soins.
Et j'ai une question aussi brève que brutale. Et l'action publique dans tout ça, que font les gouvernements pour ces maladies non transmissibles? Quelle part des budgets? Est-ce que finalement tout ça n'est pas totalement négligé?
Je pense que les gouvernements commencent à prendre conscience de l'ampleur du problème. Les gouvernements sont confrontés à ce double fardeau des maladies transmissibles. Souvenez-vous récemment l'épidémie Ebola qui a concerné mon pays, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, mais en même temps, ils doivent absolument et nécessairement faire face à ces pathologies qui sont là, qui progressent, qui constituent aujourd'hui une charge de mortalité importante. Le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires tuent plus proportionnellement dans nos pays que dans les pays développés. Et donc, c'est le rôle aussi des patients, de la société civile, des non-state actors, des gens qui ne sont pas dans le gouvernement, de mettre pression, de dire « nous devons occuper la place, nous devons travailler avec vous pour réorienter les politiques publiques et regarder la réalité de la vie des gens et faire en sorte que ces maladies disposent de plus de ressources. »
Alors, on l'a compris, hein, docteur Karine de Beaufort, pour ces maladies chroniques, il y a urgence.
Il y a archi-urgence, ça c'est un. Deux, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier en même temps de mobiliser la société civile pour la prévention. Surtout quand on parle de l'obésité, de nouveau le double aspect. D'un côté, on a des enfants sans alimentation et de l'autre côté, il y a l'obésité qui augmente de façon angoissante et qui est sûr et certain un risque énorme pour le diabète de type 2 en supplément. Alors, urgence vitale.
Avec cette coexistence hein, pour le continent africain, donc Ali Soumountera, de cas de dénutrition, de cas de surnutrition et parfois à quelques kilomètres de distance, ça paraît complètement incroyable et pourtant c'est la réalité aujourd'hui.
Absolument. Je pense que ce matin, les débats ont été beaucoup focalisés sur cette dimension-là. Et malheureusement, il va falloir un bout de temps pour conjuguer avec cette réalité-là. Comme le professeur l'a dit, nos gouvernements sont en train de prendre conscience de la chose. L'un ne doit pas empêcher l'autre. Il faut que ces programmes qui traquent ces deux problématiques puissent cohabiter. Souvent, on a l'expérience que un programme, par exemple, qui traite la malnutrition va empiéter sur un programme qui va essayer de lutter contre l'obésité, parce qu'il y a un paradoxe qui est là. Mais la réalité doit nous amener vraiment à travailler sur les deux, et le diabète reste au centre. Par rapport aux efforts publics, je pense que dans notre pays, vraiment, il est à saluer avec l'accompagnement de Santé Diabète, où on a vu vraiment les professionnels qui sont en train d'être formés, comme il a dit, les diplômes universitaires. Il y a un diplôme d'études supérieures qui est en train vraiment de donner des spécialistes aujourd'hui, et la décentralisation est en marche. On a plus d'une trentaine de consultations.
Et professeur Nabil Baldé, sera le mot de la fin, ne pas mettre justement ces maladies infectieuses et ces maladies non transmissibles en concurrence ou en rivalité, mais bien aller dans le même sens pour justement la promotion de la santé publique.
Absolument. Quelqu'un qui arrive pour paludisme, quelqu'un qui est soigné de tuberculose, quelqu'un qui est soigné de VIH, il faut regarder si cette personne a de l'hypertension, si cette personne a du diabète, si cette personne est en obésité, si cette personne a trop de graisse dans le sang, parce que c'est ça la qualité des soins. C'est ça la bonne médecine. On le fait à niveau individuel, il faut qu'on apprenne à le faire au niveau des programmes et des politiques publiques. Il faut intégrer tout contact avec le milieu médical, avec toute demande de soins, devrait intégrer ces maladies-là, parce que ce sont malheureusement des maladies qui peuvent exister sans aucun symptôme.
Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs de nous avoir accompagnés pour cette émission. Docteur Catherine de Beaufort, pédiatre endocrinologue à l'hôpital du Luxembourg. À vous aussi, professeur Nami Baldé, professeur endocrinologue à l'hôpital Donkat Conakry en Guinée, président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique. Et à vous, Ali Soumounterra, pharmacien, patient diabétique de type 2. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoussa Maquet, Ophélie Lassène à Paris, Victor Ulissi à Grenoble. Grenoble où on se retrouve demain, toujours dans le cadre de la conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale. Demain, coup de projecteur sur les partenariats, les initiatives de terrain pour lutter contre le diabète en Afrique. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio, sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.